Dans l'enfer du Bataclan, au procès des attentats du 13 novembre, les témoignages des rescapés du carnage. Aujourd'hui, nous serons avec Sophie Parmentier au début de ce journal. La Haute Autorité de Santé élargit le rappel d'une troisième dose de vaccin aux soignants, pas encore à tous, mais ce sera probablement nécessaire, dit-elle, dans les mois qui viennent. Dans l'actualité encore, le revenu d'engagement pour les jeunes. Le gouvernement prépare la marche arrière. Le nombre de bénéficiaires pourrait être divisé par 3. L'onde de choc des Pandora Papers mondial, énormément de réactions depuis lundi, on le verra. Et puis la commission de discipline de la Ligue de foot réunie en ce moment pour décider des sanctions après les débordements des matchs Lens-Lille et Angers-OM. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, après le rapport Sauvé et ses chiffres proprement hallucinants, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'Église est prête à faire? Est-ce qu'elle doit tout revoir de haut jusqu'en bas? Faut-il parler de son organisation, de certains aspects de sa doctrine aussi? Quel après doit-il y avoir? À vous de nous le dire avec vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000.
France Inter. Certains ont simulé la mort, d'autres se sont cachés sous des corps. Au procès des attentats du 13 novembre, ce sont les victimes du Bataclan qui ont commencé à témoigner. 90 personnes tuées, des centaines blessées ce soir-là. C'est vous, Sophie Parmentier, que nous retrouvons en direct du Palais de Justice sur l'île de la Cité à Paris. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Hélène.
Parmi les récits aujourd'hui, il y a celui de Clarisse qui s'est cachée plusieurs heures dans les faux plafonds du Bataclan.
Clarisse, 30 ans, chignon clair, jean moulant, voix claire. J'aimerais être une des voix de ceux qui ne sont jamais sortis du Bataclan, commence-t-elle. Elle y était entrée avec une bande d'amis et une fiole de whisky sous le manteau. Quand elle a voulu sortir se ravitailler au supermarché du coin, Clarisse a entendu un bruit assourdissant, abominable. Elle comprend qu'il y a un danger dans la rue, fait demi-tour pour retourner dans la salle de spectacle et s'attire 4 fois dans son dos. Elle attend de se faire tirer dessus. Je me dis, est-ce que ça va faire mal? Est-ce que je vais mourir direct? Et puis, elle pousse de toutes ses forces. Une porte bloquée atterrit dans une vieille loge en placoplâtre et se met à défoncer le plafond à coups de poing, suivi de plusieurs dizaines de personnes qui veulent se cacher avec elle et seront toutes délivrées par la police. Vous avez conscience que vous avez aidé beaucoup de monde à s'en sortir, lui demande le président. Vous avez vraiment sauvé beaucoup, beaucoup de gens, souligne le magistrat.
Et puis, il y a l'histoire d'Hélène, hein, Sophie, qui a perdu l'amour de sa vie, Nick, dans ses bras.
Hélène, 49 ans, petite femme blonde et ronde avec un accent anglais. Hélène raconte ce 13 novembre avec Nick, l'amour de sa vie qui tenait le stand de t-shirt dans le Bataclan. Elle a vu les terroristes entrer. J'entends pop, pop, pop. Nick la jette à terre et il tombe sous les balles. Lui dit, je vais mourir Hélène. Je dis, Nick, je suis là, je t'aime, je te quitte pas. Et elle prend à son tour 2 balles dans la cuisse. Elle crie aux terroristes, please, stop. Et Nick meurt dans les bras d'Hélène, une flaque de sang sous eux. À la barre, Hélène sanglote. Elle dit, je ne suis pas en colère. J'ai appris que la paix est à travers le pardon, l'amour gagnera toujours, conclut-elle, des mots qui sont inscrits en grosses lettres sur son t-shirt.
Sophie Parmentier en direct du Palais de Justice sur l'île de la Cité à Paris, avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre, l'audience racontée aussi sur franceinter.fr.
Il est 19h03, Hélène, les soignants devraient bientôt recevoir une troisième dose de rappel vaccinal.
C'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé qui ne va pas aussi loin que l'Agence Européenne du Médicament. Elle donnait son feu vert à un rappel pour tous les adultes. Pour la HAS, donc, la troisième dose. Pour les soignants et les salariés du médico-social, ça fait 3,5 millions de personnes. Pour ceux aussi qui vivent dans l'entourage de personnes immunodéprimées, entre 350 et 400 000 personnes. Les explications sont signées Véronique Julia.
La Haute Autorité de Santé élargit le périmètre, mais n'ouvre pas en grand la porte à cette piqûre de rappel. Ce n'est pas une question de dose, dit-elle, des doses de vaccins ARN, puisque c'est de celui-là dont il s'agit, on n'en manque pas en France. On manque en revanche de données scientifiques. Celles dont on dispose sont encore, dit-elle, des résultats partiels ou préliminaires. Ils montrent bel et bien une diminution de l'efficacité vaccinale dans le temps, ainsi que l'effet très bénéfique d'une troisième dose. Avec le vaccin Pfizer, on relève en effet des cas d'infection 11 fois moins élevés et des cas de formes graves près de 20 fois moins fréquent chez les plus de 60 ans qui ont bénéficié du rappel. L'autorité relève malgré tout que la perte d'efficacité du vaccin dans le temps et avec qui plus est le variant Delta est surtout documentée chez les plus fragiles. D'où cette recommandation d'abord pour ceux qui les côtoient et qui les soignent. Pour le reste, la HAS se donne le temps. Elle estime que pour les jeunes adultes sans comorbidité, rien ne presse, d'autant qu'ils ont été vaccinés un peu plus récemment et qu'en plus la situation sanitaire s'améliore. Mais pour eux aussi, il leur viendra sans doute. Pour la population générale, générale. Une dose de rappel deviendra probablement nécessaire, dit l'autorité, dans les mois qui viennent.
Un avis de la Haute Autorité de Santé que le gouvernement devrait suivre, ce sera proposé au Conseil de Défense, a confirmé le ministère de la Santé, le ministre même de la Santé, Olivier Véran, tout à l'heure. Vaccin encore avec le premier vaccin antipaludique pour les enfants, fabriqué par un laboratoire britannique, autorisé et que l'OMS recommande de déployer massivement. C'est un moment historique, a dit tout à l'heure le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. En Afrique, le paludisme tue plus de 260 000 enfants de moins de 5 ans chaque année. Et puis en bref, encore des dizaines de soignants du SAMU ont protesté ce matin sous les fenêtres de l'Assemblée nationale contre le projet de numéro unique. Une proposition de loi est en cours de discussion. Les professionnels du SAMU craignent que ce ne soit plus forcément quelqu'un de qualifié qui réponde aux urgences médicales. Ils sont 11 millions de Français à soutenir un proche malade en situation de handicap au quotidien. Et qui pour les accompagner, eux, psychologiquement, financièrement? C'est la journée nationale des aidants aujourd'hui. Plus de la moitié travaillent encore et ce sont pour la plupart aussi des femmes. Reportage France Bleu Alsace, signé Luc Dreosto.
Sonia Cardonneur commence à télétravailler dès 5h du matin tout en s'occupant de sa fille âgée de 21 ans. Née grande prématurée, Chloé souffre d'une infirmité motrice cérébrale. Son état s'est détérioré en établissement spécialisé. Sonia Cardonneur a donc préféré la rapatrier à la maison, même si ça lui coûte beaucoup d'énergie et d'argent.
Si votre enfant est en milieu spécialisé, il y a des prises en charge, mais si vous avez fait le choix du milieu ordinaire, vu la situation actuelle, il n'y a rien. Donc on est vraiment livré à nous-mêmes. C'est la grosse galère.
En plus, la mère de Sonia Cardonneur souffre de la maladie d'Alzheimer depuis 4 ans.
Ça me fait mal au cœur de voir ma maman ici à la maison tourner en rond et puis surtout qu'elle ne nous reconnaisse plus, quoi.
Le mari et le père de Sonia Cardonneur sont là pour l'aider, mais elle a aussi besoin de moments de répit. Elle s'accorde au moins un week-end tous les deux mois.
C'est une question de survie. Moi aujourd'hui, si je n'ai pas ces temps, je ne m'en sortirai pas. On est vraiment maltraité. On est maltraité dans l'accompagnement de notre fille, on est maltraité dans notre accompagnement à nous. On nous impose des choses et en fait aujourd'hui c'est hyper dur. Et en prenant du recul, ça fait quand même 21 ans que c'est hyper dur.
Mais ce qui lui permet de tenir, c'est...
Le sourire de ma fille. Elle a besoin de moi, je ne vais pas la lâcher comme ça. Il faut rester optimiste et puis se dire que ça ira mieux demain.
Sonia Cardonneur espère que sa fille pourra s'installer d'ici 2 ans dans un logement inclusif adapté aux personnes en situation de handicap.
Moins de 5000 personnes ont bénéficié l'année dernière du nouveau congé proche aidant, un dispositif qui permet de s'arrêter de travailler pendant 3 mois. Trop peu connu encore, regrettent les associations. Voici un autre chiffre qui interpelle. 1 enfant sur 5 serait confronté au cyberharcèlement. Étude de l'association e-enfance rendue publique aujourd'hui. Des jeunes filles, la plupart du temps, autour de 13 ans. D'abord par jalousie ou vengeance, ensuite pour des questions de vêtements ou de physique. Il y a 1 an, l'association évoquait le chiffre d'un adolescent sur 10 victimes. Le phénomène a-t-il doublé? Pas exactement, répond la présidente de l'association, Justine Atlan.
Effectivement, on pourrait extrapoler en disant « Ah ben, il y a 2 fois plus ». D'enfants qui sont cyberharcelés aujourd'hui qu'en 2020. Je pense que ce serait un abus de langage, honnêtement, de le dire. Je pense que le chiffre qui augmente est plus lié à une augmentation des jeunes connectés, le rajeunissement de la connexion et la multitude de plateformes en fait sur lesquelles ils sont connectés en même temps, parce qu'ils ont tous des comptes sur quasiment tous les réseaux sociaux et les messageries, qu'une réelle croissance du phénomène. En tant qu'observateur, le phénomène en lui-même, il est relativement stable et il est quand même autour plutôt de 12-15%. Parallèlement, comme toutes les violences de la société, la sensibilisation aussi de la population fait qu'ils vont être plus nombreux à reconnaître qu'ils subissent ces violences-là et à les déclarer. Mais c'est pas parce qu'ils sont plus nombreux à déclarer qu'ils en sont victimes qu'il y a plus de victimes qu'avant. Il y a plus de trafic sur les routes de l'Internet, donc il y a plus d'accidents pour faire court. Ça, c'est normal.
La présidente de l'association e-enfance avec Juliette G. Les chiffres et le dossier complet à retrouver sur franceinter.fr. Faire une place à la vie de famille dans sa vie professionnelle. Voici un rapport qui suggère de nouvelles pistes pour relancer le congé parental. Il est partagé entre les deux conjoints depuis 2015. Il peut l'être, en tout cas, pour favoriser l'égalité homme-femme, mais c'est plutôt par des économies. Il s'est plutôt traduit par des économies pour le gouvernement, car les pères ne s'en sont pas beaucoup saisis. Les bénéficiaires ont chuté de moitié. Le rapport présenté aujourd'hui au ministère du Travail propose un congé raccourci, 6 mois pour chaque parent, mais mieux rémunéré, proportionnel au salaire.
C'est une idée qui a émergé il y a plus de 8 mois, annoncée le 12 juillet dernier par Emmanuel Macron.
Un revenu d'engagement pour les jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l'emploi. 500 euros par mois et un accompagnement pour retrouver du travail. Mais l'annonce traîne et on sent bien ces dernières semaines que le gouvernement prépare ce qui ressemble à une marche arrière. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
Le nombre de jeunes qui bénéficieraient de la mesure pourrait bien être divisé par 3, 500 000 au lieu de plus d'un million 400 000, affirme le journal Les Échos.
Oui, c'est ce qui signifierait un dispositif extrêmement resserré par rapport aux annonces de cet été. Alors si le ministère du Travail ne confirme pas ce chiffre, il assure que ce scénario a toujours été évoqué parmi d'autres et dans la majorité des parlementaires n'hésitent plus à parler de réduction de voilure d'une aide qui doit viser les plus modestes uniquement. En coulisses, on sent bien le vent tourner, s'inquiète Antoine Dulin du Conseil d'orientation des politiques jeunesse, auteur d'un rapport sur le sujet.
On revient à l'idéologie de « il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi ». La petite musique qui opposerait emploi et solidarité, on ne vit pas avec 500 euros. Donc laisser croire que des jeunes se trémoucheraient dans l'oisiveté parce qu'ils percevraient 500 euros, c'est faux.
Et quand bien même la reprise est là, la situation des jeunes sans soutien familial, elle, n'a pas bougé, dit-il. 500 000, lorsqu'on sait que l'actuelle garantie jeune doit déjà atteindre 200 000 participants et que l'accompagnement géré par Pôle emploi doit atteindre 240 000, ce serait un tout petit saut, une ambition reniée, continue Antoine Dulin, qui veut encore croire à un sursaut.
On tarde, la loi de finances va bientôt être présentée à l'Assemblée nationale et il n'y a toujours aucune ligne sur ce revenu d'engagement des jeunes sur lequel s'était engagé Emmanuel Macron le 12 juillet dernier.
Discours du 12 juillet, toujours d'actualité, assure l'Élysée. Le président avait alors promis de présenter lui-même ce nouveau revenu dès la rentrée.
Claire Chaudière, 500 000 emplois ont été créés cette année. Ce sera peut-être un argument du gouvernement pour revoir la voilure sur le revenu d'engagement. C'est un chiffre INSEE ce soir. L'Institut de la statistique prévoit un taux de chômage à 7,6% à la fin de l'année, quasiment un point de moins qu'il y a deux ans avant la crise sanitaire. Il maintient une prévision de croissance de 6,25% pour 2021 et une inflation toujours à plus de 2%. Là, ça ne va pas retomber de sitôt. En tout cas, les prix de l'énergie continuent de flamber. Pic de hausse à 35% pour le gaz aujourd'hui et le sujet est devenu éminemment politique. En Europe, il y a la France et l'Espagne qui veulent des mesures fortes. Revoir le marché de l'électricité, penser à des achats groupés. Mais l'Allemagne ou les Pays-Bas freinent en disant que la situation est temporaire. Et au milieu de tout ça, il y a la Russie, deuxième producteur mondial de gaz derrière les États-Unis, l'un des principaux fournisseurs de l'Europe. Elle n'ouvrira pas son robinet comme ça. C'est la correspondance à Moscou de Jean-Didier Revoin.
Pointé du doigt depuis plusieurs semaines, Moscou a répondu fermement aux critiques de l'Union européenne et c'est Vladimir Poutine en personne qui a remis les pendules à l'heure en critiquant la politique énergétique de Bruxelles. Toute leur politique était de sortir des contrats à long terme et cette politique s'est avérée erronée, a déclaré le président russe lors d'une réunion avec des responsables du secteur énergétique russe. Sur le marché spot, les prix ont atteint des sommets en raison notamment de la faiblesse des stocks européens et de la forte demande d'énergie mondiale liée à la reprise post-Covid. Moscou envoie donc une fin de non-recevoir à ceux qui lui reprochent de brider ses livraisons de gaz dans le but d'obtenir le plus rapidement possible la mise en service du gazoduc controversé Nord Stream 2. Pour rappel, la Russie fournit près du tiers de la consommation européenne de gaz et même si elle affirme être prête à négocier de nouveaux contrats d'approvisionnement à long terme, dans l'immédiat, ce sont les consommateurs européens qui passent à la caisse. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
L'Europe qui prépare de nouvelles propositions pour lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale. La Commission européenne les présentera d'ici à la fin de l'année. L'urgence d'une réponse face aux révélations du consortium international des journalistes d'investigation en début de semaine. Les Pandora Papers, des millions de documents ont été rendus publics, révélant que les paradis fiscaux ont encore de beaux jours devant eux. Roi, président, premier ministre en exercice, l'onde de choc est mondiale et les réactions ont été rapides. Dénégation, enquête ouverte, les révélations ne laissent personne indifférent. Nathalie Charbonnier.
Au Chili, les députés de l'opposition ont annoncé qu'ils entendaient ouvrir une procédure pouvant conduire à la destitution du président Piñera. On lui reproche la vente d'une compagnie minière via une entreprise appartenant à ses enfants, des faits que nie le principal intéressé. Au Mexique, le président Obrador a demandé une enquête sur les quelques 3000 Mexicains soupçonnés de dissimuler des biens dans des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt, parmi lesquels un de ses ministres. En Jordanie, c'est le palais royal qui a communiqué pour défendre le roi Abdallah. La Jordanie parle d'informations déformées qui menaceraient la sécurité du monarque et de sa famille. On lui reproche des avoirs dans des sociétés offshore. démenti aussi du Premier ministre ivoirien qui aurait détenu une société aux Bahamas. Explication compliquée de la présidence ukrainienne qui a tenté de justifier les sociétés offshore de son président. Enfin, réaction un peu hypocrite du président kényan qui se félicite de l'enquête mais qui ne commente pas les accusations portées contre lui et sa famille qui détiendraient elle aussi des sociétés offshore.
L'actualité à l'étranger, c'est aussi ce nouveau signe d'apaisement après la crise des sous-marins australiens. L'ambassadeur de France en Australie va rentrer à Canberra. Les deux présidents, Emmanuel Macron et Joe Biden, auront un nouvel entretien mi-octobre, dit aussi le ministre français des Affaires étrangères. Et puis en Allemagne, en pleine négociation pour la formation d'une coalition, le chef de file des sociaux-démocrates, Olaf Scholz, assure avoir le mandat pour mettre sur pied un gouvernement avec les Verts et les libéraux. Il se voit demain pour entamer une discussion en vue d'une alliance.
Au lendemain du rapport accablant sur la pédophilie dans l'Église, Emmanuel Macron exige vérité et réparation.
Le chef de l'État en déplacement en Slovénie a aussi tenu à saluer l'esprit de responsabilité de l'Église.
D'abord, je salue le travail fait par Jean-Marc Sauvé pendant de très longs mois. Salue aussi l'esprit de responsabilité de l'Église française qui a décidé de regarder ce sujet en face, comme l'avaient fait d'autres églises à travers l'Europe en particulier. Derrière les chiffres et les situations édifiantes qui sont décrites, ce sont des destins brisés, des femmes et des hommes dont les vies ont été bousculées, parfois brisées. C'est d'abord à eux que j'ai une pensée. Je souhaite que ce travail puisse se poursuivre dans la lucidité et l'apaisement. Notre société en a besoin. Il y a un besoin de vérité, de réparation, avec des propositions très concrètes qui sont faites par la mission, qui est une mission œcuménique. Mais je pense que ce devoir de vérité, nous devons le faire à tous égards. Et ça relève aussi d'une ambition qui est la nôtre, plus largement, de protéger nos enfants.
Selon le rapport de la commission, plus de 300 000 mineurs ont subi des agressions sexuelles dans des institutions de l'Église depuis 70 ans. C'est maintenant à l'Église d'apporter les réponses et il y a déjà débat sur le secret de la confession, par exemple. La commission suggère de le lever. Réponse ce matin du président de la conférence des évêques de France. Le secret de la confession, dit-il, est plus fort que les lois de la République. Emmanuel Macron, vous l'entendiez à l'instant, Slovénie et au micro de Maxence Lambrec, qui sera soutenu s'il se représente à la présidentielle par Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a quitté les Républicains en mai dernier, l'a confirmé ce matin. Et puis les sanctions vont tomber ce soir, après les graves débordements en marge des rencontres de foot, Lens-Lille et Angers-OM, envahissement de terrain à Lens, jet de siège, et à Angers, une bagarre avait éclaté entre supporters des deux équipes après le coup de sifflet final. La commission discipline de la Ligue est réunie en ce moment et pourrait bien être sévère, car les incidents se multiplient depuis le début de la saison. Ils donnent une image déplorable du sport, particulièrement auprès des jeunes. On sent une grosse déception dans la voix de ces jeunes joueurs.
Nice-Marseille, ils se sont tapés dessus, quoi. Ça sert à rien, c'est du sport. Bon, c'est pas du sport de combat, mais faut plus faire ça, quoi. C'est pas bien.
Bah, c'est un manque de respect pour les joueurs, parce qu'ils peuvent plus continuer à jouer.
Mais même s'ils perdent, ils peuvent gagner une prochaine fois. C'est pas la fin du monde.
J'ai pas du tout envie de voir ça.
Comme on peut le dire à la baston, faut pas se faire ça. Sur les spectateurs de l'équipe adverse, c'est l'équipe adverse à gagner. C'est un jeu.
Eux, les joueurs, ils veulent juste prendre du plaisir à jouer et pas recevoir des coups et des bouteilles sur la tête. Personne n'aime.
Un stade de foot, pour moi, c'est beau. Et du coup, on n'a pas à le détruire comme ça. Je viens pas regarder du cash, je vais regarder un match de foot.
Voilà, des témoignages recueillis par Bastien Thomas de France Bleu Normandie à l'entraînement aujourd'hui au stade Saint-Exupéry de Rouen. Et pour ne pas regarder du catch, mais du foot, on attend donc les sanctions tout à l'heure de la commission de discipline de la Ligue de football qui est réunie en ce moment.
Allez, merci beaucoup Hélène Filly. À demain, bien sûr, pour le journal. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. On parle de la suite à donner au rapport Sauvé ce soir. Quel après pour l'Église ? Un œil sur le ciel, juste avant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Et Jean-Pierre Hameau, beaucoup de grisailles sur la moitié nord du pays. Voilà pour le programme de demain.
Oui, demain matin, Fabienne, brume, bande, brouillard et nuages bas seront souvent présents au lever du jour entre le centre, la région parisienne et le Nord-Pas-de-Calais. Prévoyez une matinée nuageuse avec de faibles pluies de la Bretagne au Pays de la Loire et jusque vers la Normandie, mais aussi de la région Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. En revanche, le soleil sera au rendez-vous tôt le matin entre l'Aquitaine et l'Occitanie et jusque vers la région PACA. À noter la présence de bandes brouillard le long de la Garonne. Et puis l'après-midi, le soleil va s'imposer dans la plupart des régions. Seule la Bretagne et la Normandie resteront sous les nuages. Côté température, les minimales au lever du jour seront souvent fraîches le matin. Et puis les maximales l'après-midi, proches des normales de saison, avec 15 degrés à Mulhouse, 16 à Nancy, Dijon et Lyon. On attend 18 degrés dans les rues de la capitale, mais aussi à Cherbourg et Bourges, 20 à Toulouse, 21 à Bordeaux et Marseille, 23 à Nice, et puis on ira jusqu'à 24 à Ajaccio.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup.